podcast.com. Essaye ça.
Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs et les autres. Mon nom est Andy Jacques. Vous êtes à Terrain Basique, le podcast sur Magic, le plus québécois de l'univers. mon nom est Andy Jacques, je l'ai déjà dit. Je suis accompagné de deux habituels, Jonathan Gauthier, qui va s'occuper de la trame narrative, de la trame musicale qu'on a en ce moment en arrière. Qu'est-ce qu'on entend?
La trame narrative, on laisse ça à Emmanuel. Mais ce soir, mais non, je vous ai pogné un petit album de Chill Wave, vraiment chill. Puis c'est Mabicio. Petit artiste vraiment le fun. Ses albums sont pas trop chers sur Bandcamp. Et l'album en question qu'on écoute ce soir, c'est Sun Colored Eyes.
Ah, c'est donc bien cute comme titre en plus.
Et si vous avez pas une scène, disponible gratuitement sur YouTube.
OK.
Cool. Pour sa propre chaîne.
Mais ce qui nous intéresse particulièrement ce soir, évidemment, il y a plein de monde qui vont écouter ça. C'est notre draft guide, c'est notre soirée pour ça, pour ce qui s'en vient sur Ixalan. Et c'est évidemment Emmanuel Côté-Séguin, notre expert en draft et en tout ce qui est standard-ish. Fait que je te laisse la parole, mon Emmanuel.
Par défaut. Ben oui, salut Andy. Ben oui, c'est le classique, on arrive, les pré-releases sont à nos portes. On va se pencher sur quels sont les archétypes suggérés par Wizard. Y a-t-il un archétype secret? Peut-être. Peut-être pas, on va tout regarder ça ensemble. Puis il y a toujours ben du contenu, là, fait qu'on lançons-nous, tiens.
Allons-y.
Si vous le voulez bien. Avec les archétypes, écoute, on va commencer tout de suite. On va commencer avec le blanc-rouge, donc le Boros. Ça va être comme une espèce d'archétype. Boros, la dernière fois qu'on l'a vu dans Eldraine, c'était assez aggro. Genre très 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 aggro, ça marchait, ça rentrait au poste. Là ça va être un petit peu plus mid range là, c'est le Thousand Moon Legion là, c'est de même qu'il l'appelle là. Ça va être c'est axé beaucoup sur taper ses propres artefacts créatures pour faire des effets. On peut le voir ici avec le Signpost Uncommon, la Caparocti Sunborn, deux colorless, un rouge et un blanc pour une 4-4, Human Soldier. À chaque fois qu'il attaque, tu peux taper deux untapped artefacts ou créatures que tu contrôles. Si tu fais ça, tu discover 3. Petit rappel, le discover, ben tu flippes des cartes du top de ton deck jusqu'à ce que tu exiles une non-land card avec un mana value de 3 ou moins et tu peux la caster sans payer son mana de cost ou la mettre dans ta main, puis après ça, tu remets tout le reste des cartes en dessous de ton deck. Là. C'est pas pire. Ça me rappelle un peu ce qu'on avait vu dans Midnight Hunt. Les zombies qui avaient il y avait toute une série de zombies qui disaient OK, ben tape 3 créatures, fais un dégât à ton adversaire, tape 3 bébites, pige une carte, discarte une carte, qui à prime abord avait paru très ordinaire, mais se sont avérés vraiment puissants. Ça s'est avéré être comme le meilleur archétype de tout le set.
Rappelle-moi dans ce set-là de Midnight Hunt, les zombies, quand tu attaquais, ils crevaient. Hein?
Ouais, qu'une fois que tu attaquais avec, tu les sacrifiais après. Ça te permettait d'utiliser tes tokens. À voir s'il y aura assez de tokens et de créatures pour ça, mais ça compte aussi les artefacts. Donc, si tu es capable de créer des trésors, des maps, tout ça, là, ça va être, ma foi, fort intéressant. Fait que celui-là, il faut que tu attaques pour pouvoir l'activer, mais il y en a toutes sortes d'autres que tu peux activer autant de fois que tu le voudras. On peut voir ici l'Adaptive Gem Guard, 3 colorless, un blanc pour une 3-3. Tu tapes 2 untapped artefacts et ou créatures que tu contrôles et tu mets un plus un counter dessus.
Et lui, il compte,
seulement,
là.
Ouais, seulement en sorcery. Donc, tu as oublié les combat tricks, là, mais ça te fait une bibitte que tu peux grossir tranquillement, pas vite.
Non, j'aime ça. Ça marche avec Holding Mind. Je sais qu'on ne draftera pas Holding Mind, mais ça marche avec Holding Mind. C'est ce qui est important pour moi.
Tu peux le voir dans le rouge, il y a le Gold Fury Strider, 4 colorless, un rouge, 3-5, Trample. Tu peux taper deux artefacts ou deux créatures pour lui donner +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Sunshot Militia, quand tu tapes deux créatures ou artefacts, tu fais un dégât à chaque opponent. La plupart de ces affaires-là sont, comme vous voyez, là, activate only as a sorcery. Fait que à garder en tête. Fait que là, tu vas vouloir avoir, tu sais, justement, des artefacts. Une carte qui va être bonne dans cet archétype-là, mais je pense sera bonne dans plusieurs. Vous allez voir, comme d'habitude, là, puis là, particulièrement, là, je trouve que le set a beaucoup de trames qui se tissent les unes à travers les autres. Là. C'est des cartes qui vont te permettre de créer plusieurs artefacts, comme le Tinker's Tote. Deux colorless, un blanc. Pour un artefact qui rentre en jeu, tu fais un colorless gnome artefact creature token. Puis ensuite, tu peux payer un blanc pour le sacrifier, gagner 3 de vie. Ça rappelle un peu les bottles
gnomes, là.
Ouais, les espèces de petits gnomes en bouteille,
ouais,
qui te permettaient de gagner 3 de vie. Fait que t'as toutes sortes de petits gnomes comme ça. Tu vois le Attentive Sunscribe, lui, quand il devient tapé, tu scryes un. Fait que tu sais, ça synergise avec tout ça. Voilà. Tu sais, ou le Volatile Wonderglyph, que quand lui devient tapé, tu peux discarder puis piger. C'est un bear, là, sinon le 2-2 pour un colorless, un rouge. Vous voyez, là, il y a beaucoup de créatures qui sont des artefacts. On en a déjà parlé quand on avait regardé les previews. Il y a beaucoup d'artefacts qui vont faire comme un effet de instant ou sorcery, là, quand ils rentrent en jeu. Fait que, tu sais, ils ont mis beaucoup des effets que t'es habitué de voir sur des artefacts ce coup-ci plutôt que sur des instant et sorcery. Ça synergise avec tout ce qui est descend et autres, là, parce que tu mets des permanents dans ton graveyard. Sinon, une carte là, que je suis curieux de voir comment ça va aller, mais ça me rappelle une carte qui était dans Brothers War. Il performait quand même bien, là, il coûtait 3 à la place, puis tu tapais des. Dans le fond, le voilà, le Guardian of the Great Door, 4-4 Angel pour 2 blancs. Flying, fait que une 4-4 flying pour 2 blancs. La twist, c'est que pour le caster, tu dois taper en plus de son coup 4 untap, soit des artefacts, soit des créatures ou des lands, tout simplement. Fait que au final, tu pourrais le payer pour 6, là. D'après moi, tu peux mettre ça en jeu assez rapidement. Merci, là, tour 3-4, 4-4 flying. En draft, ça le fait, là. C'est une uncommon. Je pense que ça va être un bon pic dans les decks blancs qui réussissent à créer assez de
d'artefacts. C'est le fun, parce que si t'es pogné avec un board qui a juste des astuces d'artefacts, equipment, qui arrive souvent quand tu joues Boros,
oui.
Ça te permet de taper tes equipment puis de double down on it. Je pense qu'il y a de quoi faire avec ça.
Absolument. Ouais. Fait que je suis curieux de voir ce que ça va donner. Sinon, une carte qui pourrait bien fonctionner ici parce que ça te permet de faire plusieurs choses. Le Thousand Moons Infantry, deux colorless, un blanc pour une 2-4 qui s'untap à chacune des untap steps. Tu peux le taper pour un effet pendant ton tour, puis après ça, il s'untap puis il reste un bloqueur. Là, c'est un 2-4, fait que c'est quand même un bon bloqueur pour 3. Sinon, par la suite, là, dans le blanc, et on reste dans le blanc, mais là, on va y aller avec le bleu. On va reconnaître encore les artefacts. Il y a beaucoup d'artefacts qui vont être là. C'est Ingenuity, Alltech Ingenuity qui l'appelle. Craft and Artifacts. Fait que tu vas voir la plupart des cartes qui sont écrites Craft with Artifacts. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus particulières, là, mais la majorité des crafts, c'est avec juste un artefact. Donc tu vois ici le Master's Guide Mural, 3 colorless, un blanc, un bleu. Pour un artefact, quand il rentre sur le battlefield, tu te fais un 4-4 golem, artefact creature token qui est blanc et bleu. Et puis ensuite, tu peux payer 7 là, quand même, là, 4 colorless, un 2 blanc et un bleu pour Craft with Artifact. On se rappelle que quand on craft with artifact, tu exiles l'artefact en tant que tel, plus un autre artefact que tu contrôles ou que tu as dans ton graveyard. Puis tu le flips, tu le retournes sur le battlefield. Tu peux seulement crafter en sorcery speed. À noter, et c'est important, ça va être important sur certaines affaires, tu fais pas juste le flipper sur le battlefield, là, c'est tu l'exiles puis tu le retournes sur le battlefield.
Parce qu'il y a des effets.
Ça trigger les effets s'il y a un artefact qui rentre sur le battlefield, des choses comme ça. Par exemple, justement, avec le Master's Manufactory qui est de l'autre bord, c'est un artefact que tu peux taper pour créer un 4-4 White and Blue Golem Artifact Creature Token. Tu peux seulement activer cette habilité-là si Master's Manufactory ou un autre artefact est rentré sur le battlefield ce tour-ci sous ton contrôle.
Quand même, hein?
Ouais. ça coûte cher, mais ça te permet de faire de chier des 4-4 allègrement si tu as des bonnes façons de mettre des créatures en jeu, des artefacts plutôt. Ouais, ça reste à voir. Là. C'est quand même coûteux. Là. 5 pour une 4-4. Peut-être après ça, 7 pour ensuite. Là, c'est du late
game. C'est gimmick, là. Ouais, c'est très gimmicky.
Fait que, on va vouloir avoir des cartes qui vont aider à crafter ou des artefacts qui te donne des bonus. Le market gnome pour un blanc, un 0-3. Quand il meurt, tu gagnes un de vie et tu piges une carte. Et s'il est exilé du battlefield pour activer un craft ability, ben il a le même effet. Fait que ça contourne un peu ça. Fait que à la limite, sinon ben, tu peux chumper avec, piger une carte, gagner un de vie, puis après ça, plus tard, tu l'exiles de ton graveyard. Ça te donne du. Ça te donne un peu de jeu. Le Weatherwind Scout qui te permet de faire un artefact, ça va être bon aussi dans le vert et bleu là, plus tard qu'on va voir qui se soucie du Explore. 2-2 Flying pour 3. Quand tu rentres en jeu, tu fais un map token. Le Cogwork Wrestler, un bleu pour une 1-2 Flash, un artefact creature gnome. Il y a plein de petits gnomes un peu partout.
Il est tellement content.
Witness me. Fait quand il rentre sur le battlefield, tu donnes -2/-0 à une créature adverse jusqu'à la fin du tour. Un petit trick, mais un petit artefact qui rentre en jeu nonobstant. Sinon, dans les crafts, là, tu peux voir le Lodestone Needle, un laisse un bleu. Flash, quand il rentre en jeu, tu tapes jusqu'à un artefact ou creature qui tu mets 2 stun counter dessus. Et puis ensuite, tu peux le crafter avec un autre artefact pour 2 colorless, un bleu, le transformer en Guidestone Compass qui te permet de payer 1 colorless, le taper pour faire une créature qui explore seulement en sorcery.
Ça, c'est mon genre de carte.
Pas pire, hein? sinon, dans le blanc, t'as le Clay Fired Bricks, un colorless, un blanc. Quand tu rentres sur le battlefield, tu peux aller chercher un Basic Plane dans ton deck, la révéler, le mettre dans ta main, ensuite me rebrasser et tu gagnes 2 de vie. Et puis, tu peux payer 7, 5 colorless, 2 blancs pour le craft avec un autre artefact pour le transformer en Cosmium Kiln. Quand tu rentres sur le battlefield, tu fais 2. Un colorless gnome artefact creature token et toutes tes créatures ont +1/+1. Ben ça fait même un gros anthem effect. Ça coûte cher.
C'est rough.
Mais quand même, là, peut-être en late game, ça peut être intéressant. Sinon, des cartes comme le Digsite Conservator qui a des effets tout le temps, qui donnent toutes sortes d'effets. Par exemple, le Dixite Conservator, 2 colorless, 2-1, c'est un gnome encore une fois, que tu le sacrifies pour exiler jusqu'à 4 cartes d'un graveyard seulement en sorcery. Ça risque d'être pertinent parce qu'il y a beaucoup
de jouages dans le graveyard.
Ouais, il y a beaucoup d'archétypes qui se soucient justement de descend des cartes qui sont dans le graveyard pour pouvoir crafter, etc. Et puis lorsqu'il meurt, fait que tu le sacrifies lui-même, tu peux payer 4 colorless pour discover 4. Puis après ça, bientôt ça te fait un artefact à utiliser pour crafter qui est dans ton graveyard. Sinon, justement, parlant de graveyard, le bleu noir. Ça se concentre là, sur le descend justement. On le voit avec Unpinback de Great Mistake, 3 colorless, un bleu, un noir pour une 6-4 vigilance menace, hein, une grosse bébite pour 5. Et qui a descend 8 pour 4 colorless, un bleu, un noir, tu peux le ramener de ton graveyard avec un finality counter, donc tu l'exiles s'il meurt, mais tu peux activer seulement si tu as 8 permanent cards ou plus dans ton graveyard et seulement en sorcery. C'est quand même, c'est quand même.
Moi, 6-4 pour 5.
Vigilance menace.
Ouais, c'est ça, là. Si je le prends pas, je vais me sentir mal de le donner à l'autre. Là.
Ouais.
C'est une uncommon qui peut faire mal.
Je me demande bien c'est qui a fait la grosse erreur, par exemple.
C'est ta job, ça, de nous dire
know, right?
Toute l'histoire.
Soit quelqu'un chez Hasbro. Hein.
Ah, ça, c'est sûr.
C'est un dessinateur qui a fait une erreur. Il a fait un barbeau.
J'ai mis beaucoup trop de bras à cette créature-là. Tu vas vouloir nourrir ton graveyard là, pour pouvoir gagner des bonus. Stinging Cave Crawler de Gorilla sur un noir pour un 3 dead touch qui a descend 4. Donc, si tu as 4 permanents ou plus dans ton graveyard, lorsque tu attaques avec, tu piges une carte et tu perds une vie. Quand même pas pire. Sinon, le Frilled Cave Worm, 3 colorless, un bleu, pour une 2-5, un Salamander Worm, qui a des Sand 4 également, qui gagne plus 2, plus 0, si t'as 4 permanents dans ton graveyard.
Fait que, ça fait bien, ouais.
Une grosse 4-5, le Chupacabra Echo, ça c'est pas pire, ça rappelle des bons souvenirs. 2 colorless, 2 noirs, pour une 3-2, quand elle rentre sur le battlefield, tu donnes moins X à target creature adverse, où X est le nombre de permanents que t'as dans ton graveyard. Removal Gnostic, on aime toujours ça. Song of Stupefaction, tu peux enchanter une créature ou un véhicule pour un colorless un bleu. Lorsqu'elle rentre sur le battlefield, tu peux te miller de 2 et ça donne moins X, moins 0 à la créature selon où X est le nombre de permanents dans ton graveyard. C'est le Fathomless Descent. Puis sinon, ben, des petits spells là, qui te permettent de peut-être nourrir ton graveyard, mais avec un peu de discrimination, ici comme Confounding Riddle, 2 colorless, 1 bleu. Instant, tu as 2 modes, soit counter target spell, à moins que son contrôleur paye 4 colorless de plus, ou tu regardes les 4 premières cartes de ton library, t'en mets une dans ta main, puis le reste dans ton graveyard. C'est un 3 cartes dans ton graveyard assez rapido.
Ouais, quand même.
Puis ça te permet de mettre la bête. Peut-être la carte que tu voudrais garder dans tes mains. Fait que, tu sais, ça j'aime ça. Les counterspell, que t'es pas obligé de counterspell avec, qui est pas nécessairement mort dans ta main, que éventuellement tu peux t'en servir pour faire autre chose. C'est toujours pratique.
Absolument.
Sinon, après ça, ben là, t'as le bleu et le vert. Où est-ce qu'on va vouloir explorer? On explore, c'est les Merfolk beaucoup. T'as Nikanzil, Current Conductor, pour un vert, un bleu, pour une 2-3 Legendary Creature, Merfolk Scout. À chaque fois qu'une créature que tu contrôles explore un land card, tu peux mettre la land card tu peux mettre une land card de ta main sur le battlefield tapée. Parce que là, on se rappelle, quand t'explores, si c'est une land card, t'en mets dans ta main direct. Si c'est pas un land card, soit tu la laisses sur le top ou tu la mets dans ton graveyard, puis tu mets +1/+1 counter sur la créature. Et à chaque fois qu'une créature que tu contrôles explore un non-land card, tu mets +1/+1 counter sur Nikanzil, Current Conductor. Fait que ça trigger, c'est cool. Pas pire.
Puis c'est cool que ça fit justement avec le concept de Current Conductor. Là, c'est comme on fait tout flou. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. Là, ça, c'est cute.
Ça coule de source.
Oui, oui.
On va voir, il y a beaucoup de Merfolk, beaucoup de créatures qui vont explorer, qui vont trigger sur les explorers. Par exemple, le River Herald Scout, un colorless, un bleu pour une 1-2 quand il rentre sur Battlefield Explore. Cenote Scout, pour une 1-1-1 vert quand il rentre sur le Battlefield Explore. Des big créatures qui s'aident quand tu explores, comme le Merfolk Cave Diver, du colorless, un bleu pour une 2-4 à chaque fois qu'une créature que tu contrôles explore, il gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué.
Ça, c'est cool.
C'est pas pire. T'sais, ça te fait un bon bloqueur. T'sais, souvent, les créatures qui peuvent gagner Unblockable n'ont pas tant de toughness. Ça aurait pu être une 2-2 ou une 3-1 à la place. Mais là, ça reste, même si tu ne trigger pas, tu n'attaques pas avec, ça te garde un bon bloqueur avec 4 de toughness. Là, c'est pas pire. Sinon, une carte qui flippe, un enchantement Twists and Turns pour un vert. Si tu as une créature que tu contrôles qui explore, à la place, tu scry un, ensuite tu explores. Ça t'aide peut-être à hit. Si tu as besoin d'un land, tu pognes un land. Si tu as besoin de booster ta créature, tu laisses la carte sur le top. Quand elle rentre sur le battlefield, tu fais explorer une de tes créatures. Et puis, lorsqu'un land rentre sur le battlefield sous ton contrôle, si tu contrôles cette land ou plus, tu le transformes en Mycoid Maze. On voit la thématique avec les twists and turns. C'est un land cave que tu peux taper pour un verre, ou tu peux payer 3 colorless à un verre, le taper pour révéler les top. Tu regardes les 4 premières cartes de ton deck. Ensuite, tu peux révéler une creature card parmi elles, la mettre dans ta main et remettre le reste en dessous de ton deck.
Ça, j'ai le feeling que ça va être joué dans le Zotron.
C'est moi qui hallucine ou le Explore, ça va être celle-là, ça va être cool, ça, Explore. Parce que tu passes à travers ton deck quand même assez rapidement pour aller chercher les affaires que tu veux.
Ouais, Explore, c'est une bonne récompense en soi. C'est ça, fait que si en plus t'as d'autres trucs qui s'additionnent avec ça, ça peut devenir pas pire. Ceux qui ont joué au dernier Xalan vont se rappeler que les decks de Explore, ils pouvaient devenir méchants rapidement. Okay. Je vois un petit peu moins de grosses synergies qu'il y en avait peut-être dans le dernier set. Là. C'était limite, c'était pas brisé, mais c'était quand même fort. Mais il y en a encore. Fait que Explore, c'est pas pire. Sinon, dans le vert et le noir, là, c'est les fungus, c'est les champignons qui sont là, qui vont beaucoup s'appuyer sur le descend. Fait que tu vas vouloir te créer des créatures avec descend, nourrir ton graveyard encore une fois. Tu vas avoir ici le Akawali de Seating Tower, un colorless, un noir, un vert pour une 3-3 fungus. Mais si tu as 4 permanents ou plus dans ton graveyard, il gagne +2/+2 trample, donc c'est une 5-5 trample pour 3. Et si tu as 8 permanents ou plus dans ton graveyard, il gagne un additionnel +2/+2 et ne peut pas être bloqué par plus qu'une créature.
Caroline, hein?
Oui, ça fait une 7-7 trample qui peut juste être bloqué par une créature.
je veux juste stopper ton petit momentum. Là.
Vas-y.
Je veux juste dire que les fungus dans Magic, je trouve que thématiquement, c'est merveilleux. Le noir-vert, c'est la décryptude, c'est de la végétation. Puis en plus, ce que j'aime, c'est qu'ils font des créatures noires qui sont pas nécessairement des démons qui veulent tuer tout le monde puis mettre tout le monde à feu et à sang.
Des zombies pustulants.
Ouais, c'est ça. Je trouve que thématiquement, je leur donne Wizard of the Coast. Dans le temps que j'avais arrêté de jouer à Ice Age, c'était pas une créature qui était présente. Je reviens, c'est là, le monde a l'air d'aimer ça, puis je fais comme de quoi vous parlez. Puis je m'avoue vaincu.
Tu es convaincu par les fungus.
Je suis convaincu par les champignons.
Ben, il y en a un estique dans ce set-là, puis dans l'histoire aussi.
Il y en a pas mal. Donc oui, t'sais, après ça, c'est peut-être à voir là, à quel point ça va être facile d'avoir 8 permanents dans ton graveyard. Puis on s'entend aussi qu'en draft, les decks de 40 cartes. Fait que c'est toujours la question qu'on se pose là, dans ces sets-là, quand il y a beaucoup de self-mill puis de jeux dans le graveyard, c'est de trouver la bonne balance pour pas te decker toi-même. Là.
Ah, ben, en même temps, ça t'amène, mettons que tu veux pas trop te decker, ça t'amène quand même à 4 dans ton permanent pour une 5-5 pour 3.
4, c'est raisonnable.
Exact.
C'est raisonnable. 8, c'est plus, c'est comme t'as un deck de 40 cartes, t'as ta main de départ. Tu viens de te dealer d'un esprit de bon pourcentage du deck. Là.
C'est pas pire, ouais, quand même. Mais tu sais, honnêtement, si t'es rendu, si 13-10 cartes dans ton deck, t'as encore du temps. Si la plupart des cartes que tu joues te mille aussi, ben là, ça reste à voir. Fait que à garder en tête, je suis pas prêt à dire que ça va être un set où est-ce que tu vas jouer des decks de 45 cartes comme on a déjà vu, mettons, avec Theros Beyond Death. Là. Mais on verra.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. Genre, si t'es pas capable de gagner en 10 tours, tweak ton deck.
Ouais, voilà. Effectivement, on va voir toutes sortes de petits fungus, de petits trucs qui te récompensent, soit si elle meurt, soit qui va automatiquement nourrir ton graveyard. Le Synapse Necromage, 2 colorless, un noir, un Fungus Wizard, 3-1. Quand il meurt, ben, tu fais 2-1-1 Black Fungus Creature Token qui ne peuvent pas bloquer. Fait que ça te laisse des petites bébites. Ça va être pas pire dans d'autres archétypes également. Le Blood Rage Mycoid, une 4-3 pour 3 colorless, un noir au début de ton end step. Si t'as descend, si toi aussi tu fais 1-1-1 Fungus Creature qui peut pas bloquer. Fait que ça risque de trigger quand même assez souvent. Là. On se rappelle que descend, c'est juste un permanent qui est mis dans ton graveyard. De n'importe où, que ce soit en discartant une carte, en milant, en jouant un artefact que tu as sacrifié, une créature qui est morte. Fait que ça risque de trigger quand même assez souvent. Le Death Cap Marionnette, 2 colorless, 1 noir pour une 1-1 Death Touch. Quand tu rentres sur le battlefield, tu te milles de 2. Tu peux te miller de 2. Ça aussi, ça trigger son descend. Puis après ça, ben, quand tu trades avec parce qu'il y a Death Touch, c'est souvent ce que tu veux faire avec. Ça descend aussi. Ça nourrit ton graveyard. Ça met un permanent de plus dedans.
À lui tout seul, c'est 3.
Puis le Mindshaft Spider, 3 colorless, 1 vert pour une 3-4 avec Reach. Quand elle rentre sur le battlefield, tu peux te miller de 2. Fait que tu vas voir là, pour répondre à nos inquiétudes de tantôt, la plupart des milles, c'est optionnel. C'est tu peux te miller de 2. In the Presence of Ages, 2 colorless, 1 vert, un instant, tu révèles les top 4 cards de ton deck. Tu mets une créature card ou un land dans ta main et le reste dans ton graveyard. Là aussi, c'est une bonne façon de filtrer le top de ton deck, nourrir ton graveyard.
Il y en a quand même pas mal de par. Puis c'est comme c'est toi qui décides, là. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu as le contrôle sur ton graveyard, là.
Yep. Ouais, je préfère toujours comme une carte comme ça que de juste dire mille-toi de 4.
Mais exact, c'est ça, c'est que c'est toi qui décides ou pas selon
non, c'est vraiment poche quand que t'es comme tu fais un deck, tu te ramasses puis ce que tu piges, c'est soit tu te fais rentrer dedans 10 ou soit tu t'auto 1000 puis tu perds. C'est comme c'est pas une situation de fun dans une game de draft. En compétition, j'ai rien contre, là, mais dans un forum un petit peu plus casual, c'est un élément que j'apprécie qui est mitigé.
Oui, absolument. Puis, mais garder en tête, là, par exemple, que ça, c'est un instant. Fait que ça nourrit pas ton descend. Là. Fait que ça va être intéressant de garder un œil sur ton permanent count, I guess. Là. C'est souvent, on va regarder le nombre de créatures que tu as dans ton deck, mais là, ici, tu vas vouloir peut-être garder ton nombre de instant sorcery à un minimum là, pour te concentrer sur les permanents. C'est ce qui fait, je pense qu'on a fait la moitié, on peut peut-être passer à la carte de la semaine.
Allons-y, donc la carte de la semaine est une présentation de l'adversaire au 4303 Rue Sainte-Catherine Est à Montréal. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial cette semaine, Emmanuel, à l'adversaire?
Oui, la petite vie de Céline et ses jumeaux. Pas la petite ville, le D&D, c'est ça.
Le D&D, ouais, c'est ça.
C'est la gang qui faisait le D&D de la petite vie. Là, ils prennent une petite pause de la petite vie, puis ça va être Céline et ses jumeaux à Vegas. Je pense que Céline est tombée en amour avec un joueur du Canadien lors de leur récente visite. Et puis, ça fait c'est un genre de show d'impro humour.
C'est quand ça?
C'est vendredi soir.
Excellent. Donc, allez voir sur la page Facebook ou la page directement de l'adversaire pour avoir plus d'informations. En attendant, on va aller écouter le Beat à Bone, puis on se retrouve de l'autre côté à la carte de la semaine. Nous revoici de l'autre côté du Beat à Bone. Emmanuel, je pense que c'est toi qui as choisi la carte de la semaine.
Écoute, j'ai choisi une carte qui va briser tous les formats.
Encore?
Non.
Est-ce
non,
que Magic va mourir?
Ah, écoute, Magic va revivre grâce à cette carte-là. Non, j'ai choisi cette carte-là parce que le art est juste beaucoup trop beau. Vous irez le voir si vous ne le voyez pas. C'est le Poisoned Dart Frog. Il est cute. Regarde ça, ses yeux-là ont vu le néant et sont revenus sans broncher. Poisoned Dart Frog, un que le laisse un vert pour une 1-1 avec Reach. Que tu peux taper pour rajouter un mana de n'importe quelle couleur. C'est un bon petit mana dark et tu peux payer 2 colorless pour lui donner Dead Touch jusqu'à la fin du tour.
Vraiment?
Parce que c'est...
c'est excellent. Il y a juste un gros, gros, gros problème à cette merveilleuse carte. Et pas légendaire. C'était légendaire. Il y a plein de joueurs de Magic présentement qui pourraient aller voir leur blonde et dire « Hey! » tu peux jouer à Commander, check le petit. Check le petit.
Tu peux enfin être le Poison Frog que tu veux.
Ah oh, non, mais check-les, là, genre,
ça y prend un nom, c'est ça, ça y prend un nom, c'est clair.
Ça y prend un nom, là, je veux dire, comme c'est là, j'ai juste envie de le lâcher puis bosser à soir, mais s'il serait Legendary, je l'adopterais, tu sais.
Ah, ben bravo Julia pour avoir dessiné quelque chose de vraiment cute.
C'est le petit... la petite grenouille, voilà, c'était mon choix pour la carte de la semaine, cette semaine.
C'est un excellent choix.
Donc, une bonne carte à drafter.
Oui, quand même. Hein?
Un bon mana d'orc à commun, assez cheap, qui peut te permettre de trade up éventuellement si t'en as plus besoin.
Plus que trade mana, up, c'est un mana d'orc, puis on sait qu'un bloqueur qui. Même pas besoin d'avoir Death Touch. Un bloqueur qui pourrait avoir Death Touch, ça te permet de staller la game quand tu es un peu en arrière.
Puis il peut payer pour s'activer lui-même. Fait que,
c'est ça. Puis
il y a Reach.
Il y a Reach. Fait que 100% draftable, je te dis, le seul gros défaut. Moi, je veux. Je veux un Legendary Dark Frog dessiné par par Julia, c'est quoi? Metzger.
Excellent.
On va lui envoyer la commande.
Oui. Ouais, c'est excellente carte de la semaine. Quand mon seul défaut, c'est j'en veux plus. Là, c'est...
Excellent. Donc, on va retourner au Beat à Bone tout en se rappelant que cette carte de la semaine est une présentation de notre magasin slash bar slash restaurant affilié. Le bar ludique, il en fait des affaires.
Pop de quartier.
Karaoké une fois de temps en temps. Mm-hmm. L'adversaire au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. On se retrouve d'autre part du Beat à Bone. Emmanuel, j'ai hâte de voir le reste.
Ok,
draft table.
Ça y va. Bon train. Oubliez pas de drafter du removal. Il y en a du bon dans le set. Gênez-vous pas. Passe au noir-rouge. Noir-rouge, c'est un espèce de beatdown, descend. C'est aggro. C'est l'archétype qui se veut aggro dans le set. On voit ici Zoyawa Lavatong, un noir, un rouge pour une 2-2 Death Touch. C'est un gobelin warlock. D'accord. Au début de ton end step, si tu avais Descend ce tour-ci, chaque adversaire peuvent discarter une carte, sacrifier un permanent. S'ils font ni l'un ni l'autre, Zoyawa Lavatong fait 3 de dégâts à chaque adversaire.
Quand même,
hein? Wow.
C'est nasty. C'est quand même nasty.
Quand même.
Pour toi, j'aime ça.
Ouais, un bon petit bear là, à 2 pour une 2-2 de touch. Là. Tu vas avoir des cartes comme Grasping Shadows, 3 colorless, 1 noir. Chaque fois qu'une créature que tu contrôles attaque seule, elle gagne Dead Touch et Lifelink jusqu'à la fin du tour. Ensuite, si tu mets un Dread Counter sur Grasping Shadows, puis s'il y a 3 counters ou plus dessus, tu le transformes. On se rappelle l'amulette dans Forgotten Realms là, qui donnait Dead Touch Lifelink. C'était méchant longtemps. Ça te fait que tu attaques avec une créature, puis l'autre veut pas la bloquer. Si tu gagnes la vie, ça va être bon aussi dans le deck si tu veux du Lifelink. Là, j'ai pas l'autre bord. Mes excuses. C'est un enchantement qui fait qui ping de 1, là, qui draine de 1 à chaque tour. Là, si ma mémoire est bonne, je vais juste aller le voir rapidement.
Oh oui, prends ton temps. On va chanter en attendant.
C'est un land qui est de l'autre côté. Le land, c'est je mélange avec un autre enchantement. Le land, c'est un land qui est une cave qui tape pour un noir. Tu peux payer un noir, le taper pour enlever un Dread Counter dessus pour piger une carte et perdre une vie.
Solide aussi.
Fait que tu peux l'activer jusqu'à 3 fois. Là.
Shadow's Lair.
Le Shadow's Lair de l'autre part. Voilà. Sinon, le Child of the Volcano, trois colorés sur un rouge pour une 3-3. Trample, au début de Torn Steps, si t'as Descended, tu mets +1/+1 counter dessus.
Rien.
Fait qu'elle grossit à ce pompe, puis elle a Trample, on aime toujours ça. Mm. C'est bon pour les beatdowns. Des petites créatures là, qui peuvent. Qui c'est. Que tu vas aimer trader. Le Greedy Freebooter, un noir, un pirate, 1-1. Quand tu meurs, tu scry 1, puis tu as un treasure token.
C'est notre premier pirate qu'on voit.
Oui, les pirates vont être un peu plus. Ben, c'est dans le noir, bleu, rouge. Okay. C'est pour les créatures, des couleurs qu'on a trop vues.
Jusqu'à maintenant. C'est du fodder aristocrate solide. Là.
Oui, absolument. On va en voir là, tantôt également là, dans le noir-blanc. Là, ça donne pas mal de fuel pour ça. Sinon, ben après ça, on peut aller avec les gros dinosaures. Jason, la semaine passée, chialait qu'il n'y avait pas assez de bons dinosaures cheap.
Oui, c'est vrai.
Avoir, là. Il va en avoir. Écoute, les dinosaures, il y a des gros statlines. Ils ont des bons stats. Okay. Ici, on voit It's Quint, Firstborn of Gizat. Son premier. Es-tu cute? Le bébé de Gizat. un rouge, un vert pour une 2-3. Haste. Quand il rentre sur le battlefield, tu peux payer 2 colorless. Si tu fais ça, target dinosaur que tu contrôles fait des dégâts équivalents à son power à un autre target creature. C'est nasty.
Bon,
c'est
ouais, ça. 2-3 ace sans le passive ability. Nah. Fait que, je la mets dessus. Le passive ability dans pas mal. Je suis pas mal sûr que ça va avoir du play. Toutes les decks tribal dinosaures, oui, si t'es capable de rentrer. Ben, j'ai pas vu les autres, là, mais.
Il y en a du dinosaure, là. Il y en a en masse, là. On va en voir pas mal. Un autre cheap et efficace, le Belligerent Yearling. Un colorless, un rouge pour une 3-2 Trample. C'est ça, c'est le flavor text. C'est un jour, il va être aussi terrifiant qu'il pense qu'il l'est. C'est que lorsque un autre dinosaure te rentre sur le battlefield, sous ton contrôle, tu peux. De changer le power du Belligerent Yearling pour le power de l'autre dinosaure.
Ah, quand même.
Il peut devenir plus gros pour un tour puis attaquer avec son beau Trample.
Ou plus petit, mais ça serait niaiseux de faire ça. Ouais.
Ça serait un petit peu niaiseux. Sinon, le Sideclaw Raptor, 2 colorless, 1 rouge pour une 4-3. À chaque fois qu'un joueur caste un spell, si c'est pas son tour, le Raptor fait 4 de dégâts.
Wow!
Celui-ci.
C'est concept, ça?
C'est
ah ouais, pitch moi ton counter spell. Ah, hein.
le flavor text est pas pire aussi sur ça. Elle est intelligente. Elle avait remarqué que les Bloodsuckers, les vampires, shakaient leurs mains à chaque fois qu'ils faisaient leur magique tout croche. Alors, elle a commencé à arracher les mains en premier.
Ben voilà. Aussi simple que ça.
C'est le dinosaure anti-magie.
Wow.
Un reprint, on l'aimait. C'était un All-Star la première fois qu'on l'a vu. Je pense que ça va être encore très pertinent parce qu'il y a beaucoup d'artefacts dans le set. Le Thrashing Bruntodon, un colorless, 2 verts pour une 3-4. Tu peux payer un colorless, le sacrifier pour destroy target, artefact ou enchantement. Écoute.
Puis une 3-4 pour 3 déjà, là, c'est yep. Très bon. Oui. Là.
Absolument. Oui, les statlines sont vraiment bonnes. Là. Tu vois, le Panic Talthazor, 4 colorless, un rouge pour une 4-5 reach. Et puis tu peux le taper pour faire 2 dégâts à chaque adversaire. Ça va te finir des board stalls. S'il y en a, je sais pas si c'est un set. Ça m'a pas l'air d'être un set qui va favoriser les board stalls, mais souvent ça arrive en limité. Là.
Je le fais en Two-Headed Giant. Fait que quand c'est dit two each opponent, puis il y en a souvent en rouge, là,
ça fait 4.
C'est une carte à garder. Si vous jouez Two-Headed Giant, skippez-la pas.
Bon call. Sinon, un excellent combat trick, le Dreadmaw's Ire, un rouge en instant, donne +2/+2 et trample à target attacking creature. Ensuite, si cette créature fait du damage, combat damage à un joueur, tu détruis un artefact que ce joueur contrôle. On se rappelle là, qu'il y a beaucoup d'artefacts. Parlant de Dreadma, le voici. Mais Wizard, qu'est-ce que vous avez fait à mon Dreadma? On l'a tire-bouchonné, on l'a épicé.
On l'a heart-shaké.
C'est le descendant du Colossal Dreadma, un classique. Le Earthshaker Dreadma, 4 colorless, 2 verts, c'est 6 Trample. Mais quand il rentre en jeu sur le Battlefield, tu piges une carte pour chaque autre dinosaure que tu contrôles. Ça peut être méchant. Sinon d'autres, tu sais, écoute, Colossus Dactyl, 4-5 pour 4. Reste 2 verts avec Reach et Trample.
Pourquoi pas?
Amenez-en des gros dinosaures. On en a pour les fous puis pour les fins. Sinon, plus petit, mais plus large. Plutôt que d'aller dans des gros dinosaures, ben on va aller sur le wild. Là, c'est le blanc-vert. Il se veut go wild aggro. On voit ici le Cutzil Malamet Exemplar. C'est Malamet, c'est un nom qu'on va retrouver dans plusieurs sur plusieurs cartes. Là, c'est la tribe ici. Un colorless, un vert, un blanc pour une 3-3. 4 Warrior. Tes adversaires ne peuvent pas caster de spell durant ton tour.
Oh, quand même.
Et puis à chaque fois qu'une créature ou plus que tu contrôles qui ont un power plus gros que son base power fait du combat damage à un joueur, tu piges une carte. Ça rappelle un peu la carte qu'on avait de la misère à lire la dernière fois. Ça, c'est juste si t'as une créature qui est boostée par un équipement, il y en a en masse, des plus un counter parce que t'as explore, whatever, ben là, s'il a fait du combat damage, tu piges une carte, quand même pas pire. On en a ici, par exemple, le Malamet Warscrab, 3 colorless, 2 blancs pour une 4-3 quand elle rentre en jeu. Toutes les créatures que tu contrôles gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Sinon, le Malamet Veteran, il est allé au gym en tout cas. 4 colorless, 1 vert pour une 5-4 Trample. Ici, t'as Descent 4. Donc si t'as 4 permanents ou plus dans ton graveyard, tu mets un +1/+1 counter sur Target Creature quand le Malamet Veteran attaque.
C'est pas payé, ça.
Oui, absolument. L'envoyé de Okinek Ahau, 2 colorless, 1 blanc pour une 3-3. Tu crées un 1-1 colorless nom artefact creature token. Si tu payes 4 colorless, 1 blanc, tu peux l'activer autant que tu veux. Ça peut être pas pire en late game, puis ça te permet d'aller large. Puis ça fait des artefacts.
Bah, 5 pour un 1, c'est beaucoup. Mais...
C'est beaucoup, mais c'est répétable.
Ouais,
c'est un mana 5. C'est un mana 5. Sinon, c'est une 3-3 pour 3. Correct. Oltec Cloud Guard, 3 colorless, 1 blanc pour une 3-2 flying. Quand il rentre sur Battlefield, tu fais un 1-1 colorless gnome. Encore là, ça te fait 2 bodies pour le prix d'un, puis ça te donne des artefacts si c'est ce que tu recherches.
Puis il vole.
Sinon, c'est une 3-2 flying, toujours agréable. Sinon, ben, après ça, dans le blanc et le noir, là, c'est la Dusk Legion, là, on les reconnaît. C'est les vampires, c'est du sacrifice. C'est beaucoup de sacrifice. On voit ici Bartolomé del Presidio, un blanc, un noir pour une 2-1, Vampire Knight. Tu peux sacrifier une autre créature ou un artefact pour mettre un +1/+1 counter sur Bartolomé del Presidio.
Et tu peux sacrifier le nombre que tu veux.
Tu peux sacrifier le nombre que tu veux et ça te coûte rien.
Et une petite phrase qui était présente souvent dans les autres cartes présentées, ça c'est pas « only when you can activate a sorcery », c'est « tu peux le comeback tricker ».
En tout temps. Fait que si ton adversaire utilise le removal sur une autre créature, tu vas voir, ben tant pis, je vais la sacrifier.
Ah ouais, gaspille ton lightning bolt. Là.
Absolument. Donc, ça s'appelle « il faut que t'enlèves cette bébête-là ».
Elle a l'air de rien, mais ouais.
Je pense qu'elle va avoir du jeu ailleurs qu'en draft. Tu peux voir vous remarquerez que la plupart c'est sacrifier soit une créature ou un artefact. Fait que tu sais, il y a des artefacts qui vont être intéressants à jouer là-dedans, comme le Dusk Rose Reliquary, un blanc pour un artefact, coût additionnel pour casser ce spell, tu sacrifies un artefact ou une créature. L'artefact Ward de 2, ça rentre sur le battlefield, tu exiles target, artefact ou créature qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le Dusk Rose Reliquary quitte le battlefield. pas pire, un bon removal.
Ouais, c'est une prison avec une twist de deux. Là.
Yep, ouais, ben, tu sais, ça rappelle un peu l'espèce de glace casquette, là, mais. Ouais. Sinon, ben, justement, un artefact que tu vas vouloir jouer parce qu'il s'active quand il arrive et quand il part. Le Mephitic Draft, un colorless, un noir, quand il rentre sur le battlefield ou qui est mis dans un graveyard à partir du battlefield, tu piges une carte, tu perds un lui. Ça te récompense pour le sacrifier, dans le fond. Fait que non seulement tu gagnes le bonus que whatever l'effet que tu avais voulu pour le sacrifier, mais en plus, ben, tu piges une carte et tu perds un lui. Fanatical Offering, le Fanatical Offering, là, un colorless, un bleu, un noir, tu sacrifies une créature ou un artefact pour caster le spell, tu piges deux cartes, tu fais un map token.
C'est le spell, attends-moi, c'est Bone,
quelque chose. Qui fait un treasure, là.
Ouais, ben, c'est que t'as toujours quelque chose dans le noir, généralement, coûtant autour de 3, ouais. Ou un petit peu moins avec un cost plus élevé.
C'est pas Deadly Dispute, c'est ça, le spell que je cherchais. C'était Deadly Dispute et pas mal le meilleur qui a été sorti de cette gang-là.
Moi, c'est Read the Bones que je cherchais, que j'adore, que je mets pas mal partout quand je peux. Coûte 3, là, mais le spell coûte 3 plus un effet bénéfique. Là, c'est coûte 2 plus un sacrifice. Tu piges 2, puis t'as un petit binet, un petit
bonus. Ben, tu rafraîchis ton artefact. Fait que c'est bon pour les decks de descente. Ouais. C'est bon pour.
Non, c'est ça. Des fois, c'est Scry 2, des fois, c'est Forcey ou je sais pas trop, là, mais c'est le petit draw spell qui te coûte la vie ou quelque chose d'autre dans le noir.
Ouais, ben là, c'est plus le spell qui te permet de sacrifier une bébête pour piger ou de sacrifier un artefact qui se remplace lui-même parce qu'il se recrée un map token. Là.
Ouais, ben c'est ça.
Dans ce deck-là, ça risque d'être intéressant. Sinon, Glorifier of Suffering, un Vampire Soldier 3-2 pour 2 colorless, un blanc. Quand il rentre sur le battlefield, tu peux sacrifier une autre créature ou un artefact. Si tu fais ça, tu mets +1/+1 counter sur jusqu'à 2 autres créatures.
Ben, ça peut être elle-même.
Ça peut être le même. Jusqu'à 2 créatures, effectivement. Vanguard of the Rose, un colorless, un blanc pour une 3-1. Tu peux payer un colorless, sacrifier une autre créature ou un artefact pour lui donner indestructible jusqu'à la fin du tour et le taper. Un bon petit attaquant.
C'est un peu comme le Regenerate dans le temps, là. Quand tu y penses.
On reparle pas de ça, OK.
OK, juste que t'avais pas que c'était tabou.
Non. C'était compliqué. Voilà. Mais avant que vous me le demandiez, il n'y a pas de Mardu Sacrifice qui va se passer. Il n'y a pas de Threaten Effect dans le rouge. Dans le set, là, je n'ai pas vu là, de carte qui te permet de gagner le contrôle d'un autre bibitte de ton adversaire pour ensuite pouvoir le sacrifier. Là.
Ah, ouais, OK.
Mais il n'y en a pas. Okay. On oublie ça.
Ils ont pensé à ça.
Oui, ben, vu que je pense que j'imagine vu qu'il y avait tellement d'effets où est-ce que tu sacrifies sans avoir à payer, que ça aurait devenu. Ça probablement que ça aurait devenu trop fort.
Ouais.
Puis ensuite, ben voilà les pirates, c'est là qu'ils se cachaient. C'était dans le rouge-bleu surtout. Les pirates, ça va être un deck qui va se soucier beaucoup des artefacts. C'est le dernier archétype qu'on voit ce soir. Ça va être aggro puis artefact. Fait que écoute, sign me up là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un
ça archétype. Ça fait changement de
bleu-rouge que c'était juste caster des instants puis des sales sa vie.
Ouais, c'est le gardant dernier puis. Là, j'étais comme, OK, c'est le fun, mais on sait que c'est un set que Permanent Matters. Uh-huh. Très peu d'enchantement. On veut avoir des affaires qui rentrent sur le board puis qui s'en aillent au graveyard. J'étais comme, OK, mais le bleu-rouge, il fait comment? Merci, Emmanuel.
Puis si je me rappelle bien, le dernier. Si je me rappelle bien, le dernier Xalan, les pirates, c'était rouge et noir, non?
C'est à ma mémoire. Ça reste okay, bleu-rouge-noir.
OK, parfait.
Ouais, ouais. Cool. Il y avait les mécaniques raid et tout ça. Là. Donc ici, on voit Captain Storm, probablement Lannery, là, Cosmium Raider, pour un bleu, un rouge. C'était, je pense que c'est la capitaine du belligérant, là, justement, ouais, qu'on a vu la semaine passée, avec, ça doit être Breaches qui est en arrière. C'est ouais, 2-2 pour 2, un rouge, un bleu pour une 2-2. À chaque fois qu'un artefact rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu mets un +1/+1 counter sur un pirate que tu contrôles.
Mine de même. Ça peut être elle-même. Ça peut être elle-même. C'est ça qui est le fun.
Absolument, puis ça peut aller vite là, si tu te mets à faire beaucoup de treasure puis de map. Là. Goblin Tomb Raider, le Lara Croft des singes. C'est une 1-2 pour un rouge qui a +1/+0 et Ace, tu contrôles un artefact.
Bien,
fait que ça peut être rapidement une petite 2-2 pour Ace pour un.
Ça le fait.
Mm-hmm. Plundering Pirate de Colorless, un rouge, quand il rentre sur le battlefield, tu te crées un treasure token. C'est une 3-2 pour toi.
Voilà.
Sinon, ça te permet d'avoir ton artefact ici. Spyglass Siren, un bleu pour une 1-1 flying qui rentre sur le battlefield, tu te fais un map token.
Tu veux? Deux mana, là, tu sors elle, ça te met un map token, tu sors l'autre à un rouge, oh, puis le bang, tu viens de manger deux d'en face.
Oh, la synchronicité est là.
Ben, fantastique.
Puis vous regarderez, il y a pas mal de petits flyers 1-1 pour 1 dans plusieurs couleurs. Il y en a des popés. Le Waylying Pirates, 3 colorless, un bleu pour une 3-3 quand il rentre sur Battlefield. Tu sais que tu contrôles un artefact, tu tapes target artefact ou créature contrôlée par un adversaire et tu mets un stun counter dessus.
Voilà.
Brazen Blade Master, 2-3 pour 3. Orc Pirate, si tu contrôles 2 artefacts ou plus, il a +2/+1 à la fin du tour lorsqu'il attaque. Donc voilà, il y en a plein. On peut voir ici la Dowsing Device, hein, que lui laisse un rouge. Quand lui ou un autre artefact rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu peux donner +1/+0 haste à une autre créature, à une créature que tu contrôles, et ensuite tu le transformes si tu contrôles 4 artefacts ou plus. Et de l'autre bord, c'est une cave rouge. Tu peux taper pour un rouge ou le taper, payer 2 colorless un rouge pour donner +X/+0 et haste à une créature où X est le nombre d'artefacts que
tu contrôles. Et en théorie, t'en as au moins 4.
Ben, t'en avais 4 quand tu l'as flippé. Ouais, là, t'en as un de moins, peut-être, là, parce que c'est,
ah, oui, c'est vrai,
c'est un artefact que t'as transformé en cave. Là.
T'as raison.
Mais alors voilà, c'est ça les pirates, ils ont du booty, et ils cherchent les trésors et tout ça. Sinon, je vous avais teasé peut-être un artefact, un archétype secret. Je vous laisse en juger. Il y a beaucoup de caves. Il y a beaucoup de caves à communes. Moi, je vous suggère là, principalement là, les cartes, les lands de chaque couleur. Que tu peux éventuellement payer 5 pour Discover 4 avec en les sacrifiant. Ça risque d'être jouable là, pas mal dans tous les decks. C'est pas des high picks, là. Mais c'est à vous de voir est-ce qu'il y a peut-être un archétype ou est-ce que vous allez vouloir vous concentrer sur drafter des caves. Je pense pas que ça va être aussi hot que, mettons, les gates l'ont été.
Ouais. Y a-tu des cartes moments. Qui interagissent avec cartes?
Certaines cartes interagissent, mais il y en a une dans chaque couleur.
J'avais entendu Gavin dire qu'en bout de ligne, Cave Matters, il y avait des années, je pense, principalement pour le vert, mais il y en avait dans toutes les couleurs. Mais j'ai pas regardé où c'est que ça s'en allait.
Parce que là, on a les caves qu'on voit là, puis il y a aussi les cartes qui se flippent en cave, qui sont pas là, en ce moment, là, qu'on voit pas dans l'écran en ce moment.
Il y en a trois. Il y en a trois.
Comme le Geode qu'on a vu, là.
Exactement, le 3. Il y en a un rouge, un noir, un vert, là, qui flippe. On les a toutes vues dans les cartes, là.
Fait que ça en fait quand même une...
Ça en fait pas mal. Mais c'est ça, comme je te dis, oui, il y a certaines cartes là, qui vont se soucier du fait que si t'as des caves, là, par exemple, mais c'est ça, t'en as pas des masses, là, t'en as genre une dans chaque couleur, t'as Bat Colony qui te fait un bat. Quand elle arrive sur le battlefield. Puis,
t'en as quand même 5 sont colorless.
Puis à chaque fois que tu mets un... Ouais, puis à chaque fois que tu mets une cave sur le Battlefield, tu donnes un plus un counter sur une créature. T'as genre Calamitous Cave-in qui fait X de dégâts à une créature. À toutes les créatures où X est là. C'est comme l'espèce de Gates Ablaze là, du set. Là, ça fait X dommages à toutes les créatures, toutes les Planeswalkers, où X est le nombre de caves que tu contrôles. Mais c'est ça, tu sais, t'en as un. Ouais. Un par clair, ouais.
En noir. J'imagine qu'en limité, ça doit être un peu compliqué de faire ça.
Ben, les payoffs n'ont pas l'air si intéressants. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas une grosse carte magique.
Il n'y a pas de gate Colossus. Il n'y a pas de.
C'est ça. If you control 8 cave, you win the game.
Genre. Fait que c'est à voir, là. Écoute, peut-être dans les rares, puis dans les mythiques, il y aura peut-être des projets, là.
Ah, peut-être éventuellement.
Ouais. J'ai une question selon toi. Est-ce que c'est. Parce que là, on a vu, évidemment, c'est les duos, là, mais est-ce que ce set-là, selon toi, va splasher en trois couleurs ou.
Ben, y a beaucoup d'options de splash. Okay. Il y a quand même pas mal de trésors. Tu vois ici, déjà, juste ici, avec les landes qu'on voit, avec les caves, il y a pas mal d'options pour avoir accès à d'autres couleurs. Et puis, tu as vu, là, il y a beaucoup de synergies. Ou est-ce que. Tu sais, ou est-ce que. Ah oui. Rouge, noir, blanc, tu vas être aggro, tu vas vouloir avoir des artefacts que tu vas sacrifier, que tu vas créer des trucs, vert, bleu, où est-ce que tu explores avec, si tu rajoutes peut-être du noir pour mettre des cartes dans ton graveyard, explore, ça descend
aussi. Ça vient de
parce que si tu veux un online, tu peux le mettre dans ton graveyard. Il y a beaucoup de trucs, je pense, qui vont aller se chercher d'un à l'autre. Je pense que ça va être un peu comme avec Eldraine, c'est dépendant, là. Ça va être plus classique, là, où est-ce que tu vas vouloir te concentrer sur deux couleurs, puis peut-être splasher légèrement une autre couleur, ou est-ce qu'il y a des cartes qui fitent avec ce que tu essayes de faire, là.
Ben, j'avoue que le mana fixing a l'air quand même intéressant.
Et parlant de ça, c'est la dernière chose que je vais vous montrer.
Ah, là, oui,
ils ont ramené un cycle de cartes avec Basic Land Cycling. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on commence à être habitué là, pas mal dans les derniers sets. Là, ils en ont eu souvent. Des créatures avec Mountain Cycling, Forest Cycling, etc. Pour deux colorless, c'est toujours une grosse bébite. Qui coûte cher, que si t'es en début de game pis t'as besoin d'un land, ben tu le joues pour aller chercher ton land, mais sinon si tu le pognes en fin de game, ben ça te fait quand même là, des affaires pas pires, là. Dans le bleu c'est pour 7, c'est une 6-7 avec ward 3. Dans le vert c'est une 7 pour une 5-5 qui rentre en jeu avec un autre 3-3, là, c'est deux dinosaures, fait que ça aide à trigger tes dinosaures. 6-5 trample pour 6 dans le rouge.
Le rouge est cool parce que c'est si t'es en fin de game pis que t'as plein de land mais pas assez de.
Ouais, parce que tu peux payer 3, ça crée un land pour piger une carte. Celui-là, ça en est un pas pire. Là.
Ouais. Non, ça, c'est une mécanique que j'ai bien aimé. Ouais. Surtout en draft, parce que tu sais, en draft, tu te ramasses que la commune de ta couleur, tu la joueras pas, fait que tu fais juste pogner une carte pour bloquer l'autre.
Yep.
Ou sinon, à la fin, la dernière carte que le gars te donne à droite, que personne ne voulait, c'est la commune, whatever, qui est pas jouable. Ça crée des communes jouables, fait que j'aime ça.
Il me semble que dans Eldraine, il n'y en avait pas de ça.
Il n'y en avait pas, mais tu sais, il y en avait dans Lord of the Rings, il y en avait dans l'autre set d'avant. Il y en a eu pas mal là, dans les dernières années. Lord of the Rings, il coûtait juste un, là, ça c'était un peu brisé. Là. Mais pour deux colorless, ça reste raisonnable. Puis aussi, c'est une façon de splasher là, parce que c'est deux colorless. Fait que tu sais, c'est. T'ajoutes pas si c'est la carte pour laquelle tu splashes, là, mais ça te permet d'aller chercher le laine de la couleur là, si t'as besoin. Alors voilà, moi je suis bien excité, je vois beaucoup de potentiel dans ce set-là.
Ouais, j'avoue. Puis on sent comme une espèce de synergie vraiment intéressante. Là, fait que... Et puis un bon power level aussi. Là.
Ouais. Il y a des pas pires bonnes cartes à tous les degrés de rareté.
Puis il sort quand déjà ce set-là?
Les pré-releases sont vendredi. Sort sur Arena mardi prochain. Il y a le si vous voulez regarder du monde jouer en avant-première jeudi de cette semaine, c'est le streamer Early Access Event.
Ouais, j'ai vu Foxy dans l'annonce là.
entre autres là, sur toutes les événements, ces événements là. Puis sinon, ben la sortie officielle c'est vendredi la semaine prochaine là, mais on s'entend qu'une fois que le pré-release est fait là, c'est pas mal sorti là.
Et nous, on va vous parler de l'histoire mardi prochain. Je vous prépare un dossier sur le lore. Vous allez voir des similitudes avec des affaires qui se passent dernièrement dans le monde de la télévision et des séries.
Jacques va vous raconter une histoire manière de Wizards.
Alors, c'est la fin de cet épisode en ce moment. On va dire merci à Jonathan Gauthier. C'est quoi qu'on entend déjà? C'est quoi qui nous s'accompagne en ce moment?
Ce qu'on écoutait, c'est Mabissio, Sun Colored Eyes.
Qu'on peut trouver sur Bandcamp.
Bandcamp, YouTube, gratuitement sur le site de l'auteur. Puis ça s'écoute bien en travaillant. Là. Chillez avec ça, vous allez apprécier.
Excellent. Merci Emmanuel pour le dossier que tu nous as monté.
Envoyez-nous des photos de vos decks de pré-release. On est toujours curieux de voir ce que vous allez réussir à faire.
Absolument. Ou si vous avez des commentaires ou des questions, on est présent pour y répondre. Mon nom est Andy Jacques. C'était Terrain Basique, une présentation de l'adversaire au 4303 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal. On va remercier aussi le Beat à Bonne. On va remercier Martin Godet pour le montage. C'était Terrain Basique, le podcast sur Magic le plus québécois que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Bonne soirée!